Honoré de Balzac. L'enfant maudit. À Madame la Baronne James Rothschild. Comment vécut la mère? Par une nuit d'hiver, et sur les 2 heures du matin, la comtesse Jeanne d'Hérouville éprouva de si vives douleurs que, malgré son inexpérience, elle pressentit un prochain accouchement. Et l'instinct qui nous fait espérer le mieux dans un changement de position lui conseilla de se mettre sur son séant, soit pour étudier la nature de souffrances toutes nouvelles, soit pour réfléchir à sa situation. Elle était en proie à de cruelles craintes, causées moins par les risques d'un premier accouchement, dont s'épouvante la plupart des femmes, que par les dangers qui attendaient l'enfant. Pour ne pas éveiller son mari couché près d'elle, la pauvre femme prit des précautions qu'une profonde terreur rendait aussi minutieuses que peuvent l'être celles d'un prisonnier qui s'évade. Quoique les douleurs devinssent de plus en plus intenses, elle cessa de les sentir, tant elle concentra ses forces dans la pénible entreprise d'appuyer sur l'oreiller ses 2 mains humides pour faire quitter à son corps endolori la posture où elle se trouvait sans énergie. Au moindre bruissement de l'immense courte pointe en moire verte, sous laquelle elle avait très peu dormi depuis son mariage, elle s'arrêtait comme si elle eût tinté une cloche. Forcée des pieds de comte, elle partageait son attention entre les plis de la criarde d'étoffe et une large figure basanée dont la moustache frôlait son épaule. Si quelques respirations, par trop bruyantes, s'exhalaient des lèvres de son mari, elle lui inspirait des peurs soudaines qui ravivaient l'éclat du vermillon répandu sur ses joues par sa double angoisse. Le criminel parvenu nuitamment jusqu'à la porte de sa prison et qui tâche de tourner sans bruit dans une impitoyable serrure la clé qu'il a trouvée, n'est pas plus timidement audacieux. Quand la comtesse se vit sur son séant sans avoir réveillé son gardien, elle laissa échapper un geste de joie enfantine où se révélait la touchante naïveté de son caractère. Mais le sourire à demi formé sur ses lèvres enflammées fut promptement réprimé. Une pensée vint rembrunir son front pur, et ses longs yeux bleus reprirent leur expression de tristesse. Elle poussa un soupir et replaça ses mains, non sans de prudentes précautions, sur le fatal oreiller conjugal. Puis, comme si pour la première fois depuis son mariage elle se trouvait libre de ses actions et de ses pensées, elle regarda les choses autour d'elle en tendant le cou par de légers mouvements semblables à ceux d'un oiseau en cage. À la voir ainsi, on eût facilement deviné que naguère elle était tout joie et tout folâtrerie, mais que subitement le destin avait moissonné ses premières espérances et changé son ingénue gaieté en mélancolie. La chambre était une de celles que, de nos jours encore, quelques concierges octogénaires annoncent aux voyageurs qui visitent les vieux châteaux en leur disant « Voici la chambre de parade où Louis XIII a couché ». De belles tapisseries, généralement brunes de ton, étaient encadrées de grandes bordures en bois de noyer, dont les sculptures délicates avaient été noircies par le temps. Au plafond, les solives formaient des caissons ornés d'arabesques dans le style du siècle précédent et qui conservaient les couleurs du châtaignier. Ces décorations, pleines de teintes sévères, réfléchissaient si peu la lumière qu'il était difficile de voir leurs dessins, alors même que le soleil donnait en plein dans cette chambre haute d'étage, large et longue. Aussi, la lampe d'argent posée sur le manteau d'une vaste cheminée l'éclairait-elle alors si faiblement que sa lueur tremblotante pouvait être comparée à ces étoiles nébuleuses qui, par moments, percent le voile grisâtre d'une nuit d'automne. les marmousets pressés dans le marbre de cette cheminée qui faisait face au lit de la comtesse offraient des figures si grotesquement hideuses qu'elle n'osait y arrêter ses regards. Elle craignait de les voir se remuer ou d'entendre un rire éclatant sortir de leurs bouches béantes et contournées. En ce moment, une horrible tempête grondait par cette cheminée qui en redisait les moindres rafales en leur prêtant un sens lugubre. Et la largeur de son tuyau la mettait si bien en communication avec le ciel que les nombreux tisons du foyer avaient une sorte de respiration. Ils brillaient et s'éteignaient tour à tour au gré du vent. L'écusson de la famille d'Hérouville, sculpté en marbre blanc avec tous ses lambrequins et les figures de ses tenants, prêtait l'apparence d'une tombe à cette espèce d'édifice qui faisait le pendant du lit, autre monument élevé à la gloire de l'Hyménée. Un architecte moderne eût été fort embarrassé de décider si la chambre avait été construite pour le lit ou le lit pour la chambre. Deux amours qui jouaient sur un ciel de noyer orné de guirlandes auraient pu passer pour des anges, et les colonnes de même bois qui soutenaient ce dôme présentaient des allégories mythologiques dont l'explication se trouvait également dans la Bible ou dans les Métamorphoses d'Ovide. Ôter le lit, ce ciel aurait également bien couronné dans une église la chaire ou les bancs de l'œuvre. Les époux montaient par trois marches à cette somptueuse couche entourée d'une estrade et décorée de deux courtines de moire verte à grands dessins brillants nommés ramages. Peut-être parce que les oiseaux qu'ils représentent sont censés chanter. Les plis de ces immenses rideaux étaient si roides qu'à la nuit on eût pris cette soie pour un tissu de métal. Sur le velours vert, orné de crépines d'or qui formaient le fond de ce lit seigneurial, la superstition des comtes d'Hérouville avait attaché un grand crucifix où leur chapelain plaçait un nouveau buis béni, en même temps qu'il renouvelait au jour de Pâques fleurie l'eau du bénitier incrustée au bas de la croix. D'un côté de la cheminée était une armoire de bois précieux et magnifiquement ouvrée, que les jeunes mariés recevaient encore en province le jour de leurs noces. Ces vieux bahuts, si recherchés aujourd'hui par les antiquaires, étaient l'arsenal où les femmes puisaient les trésors de leur parure aussi riche qu'élégante. Ils contenaient les dentelles, les corps de jupe, les hauts cols, les robes de prix, les aumônières, les masques, les gants, les voiles, toutes les inventions de la coquetterie du XVIe siècle. De l'autre côté, pour la symétrie, s'élevait un meuble semblable où la comtesse mettait ses livres, ses papiers et ses pierreries. D'antiques fauteuils en damas, un grand miroir verdâtre fabriqué à Venise et richement encadré dans une espèce de toilette roulante, achevait l'ameublement de cette chambre. Le plancher était couvert d'un tapis de Perse dont la richesse attestait la galanterie du comte. Sur la dernière marche du lit se trouvait une petite table sur laquelle la femme de chambre servait tous les soirs, dans une coupe d'argent ou d'or, un breuvage préparé avec des épices. Quand nous avons fait quelques pas dans la vie, nous connaissons la secrète influence exercée par les lieux sur les dispositions de l'âme. Pour qui ne s'est-il pas rencontré des instants mauvais où l'on voit je ne sais quelle page d'espérance dans les choses qui nous environnent? Heureux ou misérable, l'homme prête une physionomie aux moindres objets avec lesquels il vit. Il les écoute et les consulte, tant il est naturellement superstitieux. En ce moment, la comtesse promenait ses regards sur tous les meubles, comme s'ils eussent été des êtres. Elle semblait leur demander secours ou protection, mais ce luxe sombre lui paraissait inexorable. Tout à coup, la tempête redoubla. La jeune femme n'osa plus rien augurer de favorable en entendant les menaces du ciel, dont les changements étaient interprétés à cette époque de crédulité suivant les idées ou les habitudes de chaque esprit. elle reporta soudain les yeux vers deux croisées en ogive qui étaient au bout de la chambre. Mais la petitesse des vitraux et la multiplicité des lames de plomb ne lui permirent pas de voir l'état du firmament et de reconnaître si la fin du monde approchait, comme le prétendaient quelques moines affamés de donations. Elle aurait facilement pu croire à ces prédictions, car le bruit de la mer irritée, dont les vagues assaillaient les murs du château, se joignit à la grande voix de la tempête, et les rochers parurent s'ébranler. Quoique les souffrances se succédassent toujours plus vives et plus cruelles, la comtesse n'osa pas réveiller son mari. Mais elle en examina les traits, comme si le désespoir lui avait conseillé d'y chercher une consolation contre tant de sinistres pronostics. Si les choses étaient tristes autour de la jeune femme, cette figure, malgré le calme du sommeil, paraissait plus triste encore. Agitée par les flots du vent, la clarté de la lampe, qui se mourait au bord du lit, n'illuminait la tête du comte que par moments, en sorte que les mouvements de la lueur simulaient sur ce visage en repos les débats d'une pensée orageuse. À peine la comtesse fut-elle rassurée en reconnaissant la cause de ce phénomène. Chaque fois qu'un coup de vent projetait la lumière sur cette grande figure, en ombrant les nombreuses callosités qui la caractérisaient, il lui semblait que son mari allait fixer sur elle deux yeux d'une insoutenable rigueur. Implacable comme la guerre que se faisaient alors l'Église et le calvinisme, le front du comte était encore menaçant pendant le sommeil. De nombreux sillons, produits par les émotions d'une vie guerrière, y imprimaient une vague ressemblance avec ces pierres vermiculées qui ornent les monuments de ce temps. Pareils aux mousses blanches des vieux chênes, des cheveux gris, avant le temps, l'entouraient sans grâce, et l'intolérance religieuse y montrait ses brutalités passionnées. La forme d'un nez aquilin qui ressemblait au bec d'un oiseau de proie, les contours noirs et plissés d'un œil jaune, les os saillants d'un visage creusé, la rigidité des rides profondes, le dédain marqué dans la lèvre inférieure, tout indiquait une ambition, un despotisme, une force, d'autant plus à craindre que l'étroitesse du crâne trahissait un défaut absolu d'esprit et du courage sans générosité. Ce visage était horriblement défiguré par une large balafre transversale dont la couture figurait une seconde bouche dans la joue droite. À l'âge de 33 ans, le comte, jaloux de s'illustrer dans la malheureuse guerre de religion dont le signal fut donné par la Saint-Barthélemy, avait été grièvement blessé au siège de La Rochelle. La malencontre de sa blessure, pour parler le langage du temps, augmenta sa haine contre ceux de la religion. Mais, par une disposition assez naturelle, il enveloppa aussi les hommes à belle figure dans son antipathie. Avant cette catastrophe, il était déjà si laid qu'aucune dame n'avait voulu recevoir ses hommages. La seule passion de sa jeunesse fut une femme célèbre nommée la Belle Romaine. La défiance que lui donna sa nouvelle disgrâce le rendit susceptible au point de ne plus croire qu'il pût inspirer une passion véritable. Et son caractère devint si sauvage que s'il eut des succès en galanterie, il les dut à la frayeur inspirée par ses cruautés. La main gauche que ce terrible catholique avait hors du lit achevait de peindre son caractère. Étendu de manière à garder la comtesse comme un avare garde son trésor, cette main énorme était couverte de poils si abondants, elle offrait un lacis de veines et de muscles si saillants qu'elle ressemblait à quelques branches de hêtre entourées par les tiges d'un lierre jauni. En contemplant la figure du comte, un enfant aurait reconnu l'un de ces ogres dont les terribles histoires leur sont racontées par les nourrices. Il suffisait de voir la largeur et la longueur de la place que le comte occupait dans le lit pour deviner ses proportions gigantesques. Ses gros sourcils grisonnants lui cachaient les paupières de manière à rehausser la clarté de son œil où éclatait la férocité lumineuse de celui d'un loup au guet dans la feuillée. Sous son nez de lion, de larges moustaches, peu soignées, car il méprisait singulièrement la toilette, ne permettaient pas d'apercevoir la lèvre supérieure. Heureusement pour la comtesse, la large bouche de son mari était muette en ce moment, car les plus doux sons de cette voix rauque la faisaient frissonner. Quoique le comte d'Hérouville eût à peine 50 ans, au premier abord, on pouvait lui en donner 60, tant les fatigues de la guerre, sans altérer sa constitution robuste, avaient outragé sa physionomie. Mais il se souciait fort peu de passer pour un mignon. La comtesse, qui atteignait à sa 18e année, formait auprès de cette immense figure un contraste pénible à voir. Elle était blanche et svelte. Ses cheveux châtains, mélangés de teintes d'or, se jouaient sur son cou comme des nuages de bistre et découpaient un de ces visages délicats trouvés par Carlo Dolci pour ses madones au teint d'ivoire, qui semble près d'expirer sous les atteintes de la douleur physique. Vous eussiez dit de l'apparition d'un ange chargé d'adoucir les volontés du comte d'Hérouville. « Non, il ne nous tuera pas !» s'écria-t-elle mentalement après avoir longtemps contemplé son mari. « N'est-il pas franc, noble, courageux et fidèle à sa parole ?»« Fidèle à sa parole ?» En reproduisant cette phrase par la pensée, elle tressaillit violemment et resta comme stupide. Pour comprendre l'horreur de la situation où se trouvait la comtesse, il est nécessaire d'ajouter que cette scène nocturne avait lieu en 1691, époque à laquelle la guerre civile régnait en France et où les lois étaient sans vigueur. Les excès de la Ligue, opposés à l'avènement de Henri IV, surpassaient toutes les calamités des guerres de religion. La licence devint même alors si grande que personne n'était surpris de voir un grand seigneur faisant tuer son ennemi publiquement en plein jour. Lorsqu'une expédition militaire, dirigée dans un intérêt privé, était conduite au nom de la Ligue ou du roi, elle obtenait des deux parts les plus grands éloges. Ce fut ainsi que Balagny, un soldat, faillit devenir prince souverain aux portes de la France. Quant aux meurtres commis en famille, s'il est permis de se servir de cette expression, on ne s'en souciait pas plus, dit un contemporain, que d'une gerbe de feu, à moins qu'il n'eût été accompagné de circonstances par trop cruelles. Quelque temps avant la mort du roi, une dame de la cour assassina un gentilhomme qui avait tenu sur elle des discours malséants. L'un des mignons de Henri III lui dit « Elle l'a, vive Dieu, sire, fort joliment dagué !» Par la rigueur de ses exécutions, le comte d'Hérouville, un des plus emportés royalistes de Normandie, maintenait sous l'obéissance de Henri IV toute la partie de cette province qui avoisine la Bretagne. Chef de l'une des plus riches familles de France, il avait considérablement augmenté le revenu de ses nombreuses terres en épousant, 7 mois avant la nuit pendant laquelle commence cette histoire, Jeanne de Saint-Savin, jeune demoiselle qui, par un hasard assez commun dans ces temps où les gens mouraient drus comme mouches, avait subitement réuni sur sa tête les biens des deux branches de la maison de Saint-Savin. La nécessité, la terreur, furent les seuls témoins de cette union. Dans un repas donné 2 mois après par la ville de Bayeux au comte et à la comtesse d'Hérouville à l'occasion de leur mariage, il s'éleva une discussion qui, par cette époque d'ignorance, fut trouvée fort saugrenue. Elle était relative à la prétendue légitimité des enfants venant au monde 10 mois après la mort du mari, ou 7 mois après la première nuit des noces. « Madame, dit brutalement le comte à sa femme, quant à me donner un enfant 10 mois après ma mort, je n'y peux. Mais pour votre début, n'accouchez pas à 7 mois.
« Que ferais-tu donc, vieil ours ?»
demanda le jeune marquis de Verneuil, pensant que le comte voulait plaisanter.
« Je tordrais fort proprement le col à la mère et à l'enfant. »
Une réponse si péremptoire servit de clôture à cette discussion imprudemment élevée par un seigneur bas normand. Les convives gardèrent le silence, en contemplant avec une sorte de terreur la jolie comtesse d'Hérouville. Tous étaient persuadés que, dans l'occurrence, ce farouche seigneur exécuterait sa menace. La parole du comte retentit dans le sein de la jeune femme, alors enceinte. À l'instant même, un de ces pressentiments qui sillonnent l'âme comme un éclair de l'avenir l'avertit qu'elle accoucherait à 7 mois. Une chaleur intérieure enveloppa la jeune femme de la tête aux pieds, en concentrant la vie au cœur avec tant de violence qu'elle se sentit extérieurement comme dans un bain de glace. Depuis lors, il ne se passa pas un jour sans que ce mouvement de terreur secrète n'arrêtât les élans les plus innocents de son âme. Le souvenir du regard et de l'inflexion de voix par lesquels le comte accompagna son arrêt glaçait encore le sang de la comtesse et faisait taire ses douleurs. Lorsque, penchée sur cette tête énorme, elle voulait y trouver, durant le sommeil, les indices d'une pitié qu'elle y cherchait vainement pendant la veille. Cet enfant, menacé de mort avant de naître, lui demandant le jour par un mouvement vigoureux, elle s'écria d'une voix qui ressemblait à un soupir « Pauvre petit !» Elle n'acheva point. Il y a des idées qu'une mère ne supporte pas. Incapable de raisonner en ce moment, la comtesse fut comme étouffée par une angoisse qui lui était inconnue. Deux larmes échappées de ses yeux roulèrent lentement le long de ses joues, y tracèrent deux lignes brillantes et restèrent suspendues au bas de son blanc visage, semblables à deux gouttes de rosée sur un lys. Quel savant oserait prendre sur lui de dire que l'enfant reste sur un terrain neutre où les émotions de la mère ne pénètrent pas, pendant ces heures où l'âme embrasse le corps et y communique ses impressions, où la pensée infiltre au sang des baumes réparateurs ou des fluides vénéneux. Cette terreur qui agitait l'arbre troubla-t-elle le fruit? Ce mot, pauvre petit, fut-il un arrêt dicté par une vision de son avenir? Le tressaillement de la mère fut bien énergique et son regard fut bien perçant. La sanglante réponse échappée au comte était un anneau qui rattachait mystérieusement le passé de sa femme à cet accouchement prématuré. Ses odieux soupçons, si publiquement exprimés, avaient jeté dans les souvenirs de la comtesse la terreur qui retentissait jusque dans l'avenir. Depuis ce fatal gala, elle chassait, avec autant de crainte qu'une autre femme aurait pris de plaisir à les évoquer, 1000 tableaux épars que sa vive imagination lui dessinait souvent malgré ses efforts. Elle se refusait à l'émouvante contemplation des heureux jours où son cœur était libre d'aimer. Semblable aux mélodies du pays natal qui font pleurer les bannis, ses souvenirs lui retraçaient des sensations si délicieuses que sa jeune conscience les lui reprochait comme autant de crimes et s'en servait pour rendre plus terrible encore la promesse du comte. Là était le secret de l'horreur qui oppressait la comtesse. Les figures endormies possèdent une espèce de suavité due au repos parfait du corps et de l'intelligence. Mais, quoique ce calme changeât peu à peu la dure expression des traits du comte, l'illusion offre aux malheureux de si attrayants mirages que la jeune femme finit par trouver un espoir dans cette tranquillité. La tempête qui déchaînait alors des torrents de pluie ne fit plus entendre qu'un mugissement mélancolique. Ses craintes et ses douleurs lui laissèrent également un moment de répit. En contemplant l'homme auquel sa vie était liée, la comtesse se laissa donc entraîner dans une rêverie dont la douceur fut si enivrante qu'elle n'eut pas la force d'en rompre le charme. En un instant,
par une de ces visions qui participent de la puissance divine, elle fit passer devant elle les rapides images d'un bonheur perdu sans retour. Jeanne aperçut d'abord faiblement, et comme dans la lointaine lumière de l'aurore, le modeste château où son insouciante enfance s'écoula. Ce fut bien la pelouse verte, le ruisseau frais, la petite chambre, théâtre de ses premiers jeux. Elle se vit cueillant des fleurs, les plantant, et ne devinant pas pourquoi toutes se fanaient sans grandir, malgré sa constance à les arroser. Bientôt apparut confusément encore la ville immense et le grand hôtel noirci par le temps, où sa mère la conduisit à l'âge de 7 ans. Sa railleuse mémoire lui montra les vieilles têtes des maîtres qui la tourmentèrent. À travers un torrent de mots espagnols ou italiens, en répétant en son âme des romances au son d'un joli rebec, elle se rappela la personne de son père. Au retour du palais, elle allait au-devant du président. Elle le regardait descendant de sa mule à son montoir, lui prenait la main pour gravir avec lui l'escalier, et par son babil chassait les soucis judiciaires qu'il ne dépouillait pas toujours avec la robe noire ou rouge dont, par espièglerie, la fourrure blanche mélangée de noir tomba sous ses ciseaux. Elle ne jeta qu'un regard sur le confesseur de sa tante, la supérieure des Clarisses, homme rigide et fanatique chargé de l'initier au mystère de la religion. Endurci par les sévérités que nécessitait l'hérésie, ce vieux prêtre secouait à tout propos les chaînes de l'enfer, ne parlait que des vengeances célestes, et la rendait craintive en lui persuadant qu'elle était toujours en présence de Dieu. Devenue timide, elle n'osait lever les yeux et n'avait plus que du respect pour sa mère, à qui jusqu'alors elle avait fait partager ses folâtreries. Dès ce moment, une religieuse terreur s'emparait de son jeune cœur quand elle voyait cette mère bien-aimée arrêtant sur elle ses yeux bleus avec une apparence de colère. Elle se retrouva tout à coup dans sa seconde enfance, époque pendant laquelle elle ne comprit rien encore aux choses de la vie. Elle salua par un regret presque moqueur ces jours où tout son bonheur fut de travailler avec sa mère dans un petit salon de tapisserie, de prier dans une grande église, de chanter une romance en s'accompagnant du rebec, de lire en cachette un livre de chevalerie, déchirer une fleur par curiosité, découvrir quel présent lui ferait son père à la fête du bienheureux Saint-Jean, et chercher le sens des paroles qu'on n'achevait pas devant elle. Aussitôt, elle effaça par une pensée, comme on efface un mot crayonné sur un album, les enfantines joies que, pendant ce moment où elle ne souffrait pas, son imagination venait de lui choisir parmi tous les tableaux que les 16 premières années de sa vie pouvaient lui offrir. La grâce de cet océan limpide fut bientôt éclipsée par l'éclat d'un plus frais souvenir, quoique orageux. La joyeuse paix de son enfance lui apportait moins de douceur qu'un seul des troubles semés dans les 2 dernières années de sa vie, années riches en trésors pour toujours ensevelis dans son cœur. La comtesse arriva soudain à cette ravissante matinée où, précisément, au fond du grand parloir en bois de chêne sculpté qui servait de salle à manger, elle vit son beau cousin pour la première fois. Effrayée par les séditions de Paris, la famille de sa mère envoyait à Rouen ce jeune courtisan, dans l'espérance qu'il s'y formerait au devoir de la magistrature auprès de son grand-oncle, de qui la charge lui serait transmise quelques jours. La comtesse sourit involontairement en songeant à la vivacité avec laquelle elle s'était retirée en reconnaissant ce parent attendu qu'elle ne connaissait pas. Malgré sa promptitude à ouvrir et fermer la porte, son coup d'œil avait mis dans son âme une si vigoureuse empreinte de cette scène qu'en ce moment, il lui semblait encore le voir tel qu'il se produisit en se retournant. Elle n'avait alors admiré qu'à la dérobée le goût et le luxe répandus sur des vêtements faits à Paris. Mais, aujourd'hui plus hardi dans son souvenir, son œil allait librement du manteau en velours violet brodé d'or et doublé de satin, au ferron qui garnissait les bottines, et des jolis losanges crevés du pourpoint et du haut de chausse, à la riche collerette rabattue qui laissait voir un cou frais aussi blanc que la dentelle. Elle flattait avec la main une figure caractérisée par deux petites moustaches relevées en pointe et par une royale pareille à l'une des queues d'Hermine semée sur l'épitoche de son père. Au milieu du silence et de la nuit, les yeux fixés sur les coutines de moire qu'elle ne voyait plus, oubliant et l'orage et son mari, la comtesse osa se rappeler comment, après bien des jours qui lui semblèrent aussi longs que des années, tant pleins ils furent, le jardin, entouré de vieux murs noirs, et le noir autel de son père, lui parurent dorés et lumineux. Elle aimait, elle était aimée. Comment, craignant les regards sévères de sa mère, elle s'était glissée un matin dans le cabinet de son père pour lui faire ses jeunes confidences, après s'être assise sur lui et s'être permis des espiègleries qui avaient attiré le sourire aux lèvres de l'éloquent magistrat, sourire qu'elle attendait pour lui dire « Me gronderez-vous si je vous dis quelque chose ?» Elle croyait entendre encore son père, lui disant après un interrogatoire où, pour la première fois, elle parlait de son amour. « Eh bien, mon enfant, nous verrons. S'il étudie bien, s'il veut me succéder, s'il continue à te plaire, je me mettrai de ta conspiration. » Elle n'avait plus rien écouté. Elle avait baisé son père et renversé des paperasses pour courir au grand tilleul, où tous les matins, avant le lever de sa redoutable mère, elle rencontrait le gentil Georges de Chaverny. Le courtisan promettait de dévorer les lois et les coutumes. Il quittait les riches ajustements de la noblesse d'épée pour prendre le sévère costume des magistrats. « Je t'aime bien mieux vêtu de noir, » lui disait-elle. Elle mentait, mais ce mensonge avait rendu son bien-aimé moins triste d'avoir jeté la dague au champ. Le souvenir des ruses employées pour tromper sa mère, dont la sévérité semblait grande, lui rendirent les joies fécondes d'un amour innocent, permis et partagé. C'était quelque rendez-vous sous les tilleuls, où la parole était plus libre sans témoin, les furtives étreintes et les baisers surpris, enfin tous les naïfs à compte de la passion qui ne dépasse point les bornes de la modestie. Revivant comme en songe dans ces délicieuses journées où elle s'accusait d'avoir eu trop de bonheur, elle osa baiser dans le vide cette jeune figure aux regards enflammés et cette bouche vermeille qui lui parla si bien d'amour. Elle avait aimé Chaverny, pauvre en apparence, mais combien de trésors n'avait-elle pas découvert dans cette âme, aussi douce qu'elle était forte? Tout à coup, meurt le président. Chaverny ne lui succède pas. La guerre civile survient, flamboyante. Par les soins de leur cousin, elle et sa mère trouvent un asile secret dans une petite ville de la basse Normandie. Bientôt, les morts successives de quelques parents la rendent une des plus riches héritières de France. Avec la médiocrité de fortune, s'enfuit le bonheur. La sauvage et terrible figure du comte d'Hérouville qui demande sa main lui apparaît comme une nuée grosse de foudre qui étend son crêpe sur les richesses de la terre jusqu'alors dorées par le soleil. La pauvre comtesse s'efforce de chasser le souvenir des scènes de désespoir et de larmes amenées par sa longue résistance. Elle voit confusément l'incendie de la petite ville, puis Chaverny le huguenot mis en prison, menacé de mort et attendant un horrible supplice. Arrive cette épouvantable soirée, où sa mère, pâle et mourante, se prosterne à ses pieds. Jeanne peut sauver son cousin. Elle cède. Il est nuit. Le comte, revenu sanglant du combat, se trouve prêt. il fait surgir un prêtre, des flambeaux, une église. Jeanne appartient au malheur. À peine peut-elle dire adieu à son beau cousin délivré. Chaverny, si tu m'aimes, ne me revois jamais. Elle entend le bruit lointain des pas de son noble ami qu'elle n'a plus revu. Mais elle garde au fond du cœur son dernier regard qu'elle retrouve si souvent dans ses songes et qui les lui éclaire. Comme un chat enfermé dans la cage d'un lion, la jeune femme craint à chaque heure les griffes du maître, toujours levées sur elle. La comtesse se fait un crime de revêtir à certains jours, consacrés par quelque plaisir inattendu, la robe que portait la jeune fille au moment où elle vit son amant. Aujourd'hui, pour être heureuse, elle doit oublier le passé, ne plus songer à l'avenir. « Je ne me crois pas coupable, » se dit-elle. « Mais si je le parais aux yeux du comte, n'est-ce pas comme si je l'étais ? Peut-être le suis-je. La Sainte Vierge n'a-t-elle pas conçu sans... » Elle s'arrêta. Pendant ce moment où ses pensées étaient nuageuses, où son âme voyageait dans le monde des fantaisies, sa naïveté lui fit attribuer au dernier regard, par lequel son amant lui darda toute sa vie, le pouvoir qu'exerça la visitation de l'ange sur la mère du Sauveur. Cette supposition, digne du temps d'innocence auquel sa rêverie l'avait reportée, s'évanouit devant le souvenir d'une scène conjugale plus odieuse que la mort. La pauvre comtesse ne pouvait plus conserver de doute sur la légitimité de l'enfant qui s'agitait dans son sein. La première nuit des noces lui apparut dans toute l'horreur de ses supplices, traînant à sa suite bien d'autres nuits et de plus tristes jours. « Ah, pauvre Chaverny !» s'écria-t-elle en pleurant. « Toi, si soumis, si gracieux, tu m'as toujours été bienfaisant !» Elle tourna les yeux sur son mari, comme pour se persuader encore que cette figure lui promettait une clémence si chèrement achetée. Le comte était éveillé. Ses deux yeux jaunes, aussi clairs que ceux d'un tigre, brillaient sous les touffes de ses sourcils. Et jamais son regard n'avait été plus incisif qu'en ce moment. La comtesse, épouvantée d'avoir rencontré ce regard, se glissa sous la courte pointe et resta sans mouvement. « Pourquoi pleurez-vous ? » demanda le comte en tirant vivement le drap sous lequel sa femme était cachée. Cette voix, toujours effrayante pour elle, eut en ce moment une douceur factice qui lui sembla de bon augure. « Je souffre beaucoup, » répondit-elle. « Eh bien, ma mignonne, est-ce un crime que de souffrir ? Pourquoi trembler quand je vous regarde ? Hélas, que faut-il donc faire pour être aimé ?» Toutes les rides de son front s'amassèrent entre ses deux sourcils. « Je vous cause toujours de l'effroi, je le vois bien, » ajouta-t-il en soupirant. Conseillé par l'instinct des caractères faibles, la comtesse interrompit le comte en jetant quelques gémissements et s'écria « Je crains de faire une fausse couche. J'ai couru sur les rochers pendant toute la soirée. Je me serais sans doute trop fatiguée. » En entendant ces paroles, le sire d'Hérouville jeta sur sa femme un regard si soupçonneux qu'elle rougit en frissonnant. Il prit la peur qu'il inspirait à cette naïve créature pour l'expression d'un remords. « Peut-être. Est-ce un accouchement véritable qui commence ? » demanda-t-il. « Eh bien, » dit-elle. « Eh bien, dans tous les cas, il faut ici un homme habile, et je vais l'aller chercher. » L'air sombre qui accompagnait ces paroles glaça la comtesse. Elle retomba sur le lit en poussant un soupir, arraché plutôt par le sentiment de sa destinée que par les angoisses de la crise prochaine. Ce gémissement acheva de prouver au comte la vraisemblance des soupçons qui se réveillaient dans son esprit. En affectant un calme que les accents de sa voix, ses gestes et ses regards démentaient, il se leva précipitamment, s'enveloppa d'une robe qu'il trouva sur un fauteuil et commença par fermer une porte située auprès de la cheminée, et par laquelle on passait de la chambre de parade dans les appartements de réception qui communiquaient à l'escalier d'honneur. En voyant son mari garder cette clé, la comtesse eut le pressentiment d'un malheur. Elle l'entendit ouvrir la porte opposée à celle qu'il venait de fermer et se rendre dans une autre pièce où couchaient les comtes d'Hérouville, quand ils n'honoraient pas leur femme de leur noble compagnie. La comtesse ne connaissait que par ouï-dire la destination de cette chambre. La jalousie fixait son mari près d'elle. Si quelques expéditions militaires l'obligeaient à quitter le lit d'honneur, le comte laissait au château des argus dont l'incessant espionnage accusait ses outrageuses défiances. Malgré l'attention avec laquelle la comtesse s'efforçait d'écouter le moindre bruit, elle n'entendit plus rien. Le comte était arrivé dans une longue galerie contiguë à sa chambre et qui occupait l'aile occidentale du château. Le cardinal d'Hérouville, son grand-oncle, amateur passionné des œuvres de l'imprimerie, y avait amassé une bibliothèque, aussi curieuse par le nombre que par la beauté des volumes. Et la prudence lui avait fait pratiquer dans les murs une de ces inventions conseillées par la solitude ou par la peur monastique. Une chaîne d'argent mettait en mouvement, au moyen de fils invisibles, une sonnette placée au chevet d'un serviteur fidèle. Le comte tira cette chaîne, un écuyer de garde ne tarda pas à faire retentir du bruit de ses bottes et de ses éperons les dalles sonores d'une vis en colimaçon contenue dans la haute tourelle qui flanquait l'angle occidental du château du côté de la mer. En entendant monter son serviteur, le comte alla dérouiller les ressorts de fer et les verrous qui défendaient la porte secrète par laquelle la galerie communiquait avec la tour. Et il introduisit dans ce sanctuaire de la science un homme d'armes, dont l'encolure annonçait un serviteur digne du maître. L'écuyer, à peine éveillé, semblait avoir marché par instinct. La lanterne de corne qu'il tenait à la main éclaira si faiblement la longue galerie que son maître et lui se dessinèrent dans l'obscurité comme deux fantômes. Selle mon cheval de bataille à l'instant même, et tu vas m'accompagner. Cet ordre fut prononcé d'un son de voix profond qui réveilla l'intelligence du serviteur. Il leva les yeux sur son maître et rencontra un regard si perçant qu'il en reçut comme une secousse électrique. « Bertrand, ajouta le comte en posant la main droite sur le bras de l'écuyer, tu quitteras ta cuirasse et prendras les habits d'un capitaine de Miquelet. » « Vive Dieu, monseigneur, me déguiser en ligueur. Excusez-moi, je vous obéirai, mais j'aimerais autant être pendu. » Flatté dans son fanatisme, le comte sourit. Mais pour effacer ce rire, qui contrastait avec l'expression répandue sur son visage, il répondit brusquement « Choisis dans l'écurie un cheval assez vigoureux pour que tu me puisses suivre. Nous marcherons comme des balles au sortir de l'arquebuse. Quand je serai prêt, sois-le, je sonnerai de nouveau. » Bertrand s'inclina en silence et partit. Mais quand il eut descendu quelques marches, il se dit à lui-même, en entendant siffler l'ouragan, « Tous les démons sont dehors, jarni Dieu ! J'aurais été bien étonné de voir celui-ci rester tranquille. Nous avons surpris Saint-Lô par une tempête semblable. » Le comte trouva dans sa chambre le costume qui lui servait souvent pour ses stratagèmes. Après avoir revêtu sa mauvaise casaque, qui avait l'air d'appartenir à l'un de ces pauvres reîtres dont la solde était si rarement payée par Henri IV, il revint dans la chambre où gémissait sa femme. « Tâchez de souffrir patiemment, lui dit-il. Je crèverai, s'il le faut, mon cheval, afin de revenir plus vite pour apaiser vos douleurs. » Ces paroles n'annonçaient rien de funeste, et la comtesse, enhardie, se préparait à faire une question, lorsque le comte lui demanda tout à coup « Ne pourriez-vous me dire où sont vos masques ?»« Mes masques ? » répondit-elle. « Bon Dieu, qu'en voulez-vous faire ?»« Où sont vos masques ? » répéta-t-il avec sa violence ordinaire. « Dans le bahut ? » dit-elle. La comtesse ne put s'empêcher de frémir en voyant son mari choisir dans ses masques un touret de nez, dont l'usage était aussi naturel aux dames de cette époque que l'est celui des gants aux femmes d'aujourd'hui. Le comte devint entièrement méconnaissable quand il eut mis sur sa tête un mauvais chapeau de feutre gris orné d'une vieille plume de coq toute cassée. Il serra autour de ses reins un large ceinturon de cuir dans la gaine duquel il passa une dague qu'il ne portait pas habituellement. Ses misérables vêtements lui donnèrent un aspect si effrayant, et il s'avança vers le lit par un mouvement si étrange que la comtesse crut sa dernière heure arrivée.
« Ah, ne nous tuez pas !» s'écria-t-elle. « Laissez-moi mon enfant, et je vous aimerai bien. »
« Vous vous sentez donc bien coupable pour m'offrir comme une rançon de vos fautes l'amour que vous me devez. » La voix du comte eut un son lugubre sous le velours. Ses amères paroles furent accompagnées d'un geste qui eut la pesanteur du plomb et anéantit la comtesse en tombant sur elle.
« Mon Dieu ! » s'écria-t-elle douloureusement. « L'innocence serait-elle donc funeste ?»«
Il ne s'agit pas de votre mort !» lui répondit son maître en sortant de la rêverie où il était tombé. « Mais de faire exactement, et pour l'amour de moi, ce que je réclame en ce moment de vous. » Il jeta sur le lit un des deux masques qu'il tenait, et sourit de pitié en voyant le geste de frayeur involontaire qu'arrachait à sa femme le choc si léger du velours noir.
« Vous ne me ferez qu'un mièvre enfant, » s'écria-t-il.
« Ayez ce masque sur votre visage lorsque je serai de retour, » ajouta-t-il. « Je ne veux pas qu'un croquant puisse se vanter d'avoir vu la comtesse d'Hérouville. »
« Pourquoi prendre un homme pour cet office ?»
demanda-t-elle à voix basse.
« Oh, mamie, ne suis-je pas le maître ici ?»
répondit le comte.
« Qu'importe un mystère de plus ?»
dit la comtesse au désespoir. Son maître avait disparu. Cette exclamation fut sans danger pour elle, car souvent l'oppresseur étend ses mesures aussi loin que va la crainte de l'opprimer. Par un des courts moments de calme qui séparaient les accès de la tempête, la comtesse entendit le pas de deux chevaux qui semblaient voler à travers les dunes périlleuses et les rochers sur lesquels ce vieux château était assis. Ce bruit fut promptement étouffé par la voix des flots. Bientôt, elle se trouva prisonnière dans ce sombre appartement, seule au milieu d'une nuit, tour à tour silencieuse ou menaçante, et sans secours pour conjurer un malheur qu'elle voyait s'avancer à grands pas. La comtesse chercha quelque ruse pour sauver cet enfant conçu dans les larmes, et déjà devenu toute sa consolation. Le principe de ses idées, l'avenir de ses affections, sa seule et frêle espérance. Soutenue par un maternel courage, elle alla prendre le petit corps dont se servait son mari pour faire venir ses gens, ouvrit une fenêtre et tira du cuivre des accents grêles qui se perdirent sur la vaste étendue des eaux, comme une bulle lancée dans les airs par un enfant. Elle comprit l'inutilité de cette plainte ignorée des hommes et se mit à marcher à travers les appartements, en espérant que toutes les issues ne seraient pas fermées. Parvenue à la bibliothèque, elle chercha, mais en vain, s'il n'y existerait pas quelque passage secret. Elle traversa la longue galerie des livres, atteignit la fenêtre la plus rapprochée de la cour d'honneur du château, fit de nouveau retentir les échos en sonnant du cor, et lutta sans succès avec la voix de l'ouragan. Dans son découragement, elle pensait à se confier à l'une de ses femmes, toute créature de son mari, lorsqu'en passant dans son oratoire, elle vit que le comte avait fermé la porte qui conduisait à leurs appartements. Ce fut une horrible découverte. Tant de précautions prises pour l'isoler annonçaient le désir de procéder sans témoin à quelque terrible exécution. À mesure que la comtesse perdait tout espoir, les douleurs venaient l'assaillir, plus vives, plus ardentes. Le pressentiment d'un meurtre possible, joint à la fatigue de ses efforts, lui enleva le reste de ses forces. elle ressemblait au naufragé qui succombe, emporté par une dernière lame moins furieuse que toutes celles qu'il a vaincues. La douloureuse ivresse de l'enfantement ne lui permit plus de compter les heures. Au moment où elle se crut sur le point d'accoucher, seule, sans secours, et qu'à ses terreurs se joignit la crainte des accidents auxquels son inexpérience l'exposait, le comte arriva soudain sans qu'elle l'eût entendu venir. Cet homme se trouva là comme un démon, réclamant, à l'expiration d'un pacte, l'âme qui lui a été vendue. Il gronda sourdement en voyant le visage de sa femme découvert. Mais après l'avoir assez adroitement masqué, il l'emporta dans ses bras et la déposa sur le lit de sa chambre. L'effroi que cette apparition et cet enlèvement inspirèrent à la comtesse fit taire un moment ses douleurs. Elle put jeter un regard furtif sur les acteurs de cette scène mystérieuse et ne reconnut pas Bertrand qui s'était masqué aussi soigneusement que son maître. Après avoir allumé à la hâte quelques bougies dont la clarté se mêlait aux premiers rayons du soleil qui rougissaient les vitraux, ce serviteur alla s'appuyer à l'angle d'une embrasure de fenêtre. Là, le visage tourné vers le mur, il semblait en mesurer l'épaisseur et se tenait dans une immobilité si complète que vous eussiez dit d'une statue de chevalier. Au milieu de la chambre, la comtesse aperçut un petit homme, gras, tout pantois, dont les yeux étaient bandés et dont les traits étaient si bouleversés par la terreur qu'il lui fut impossible de deviner leur expression habituelle. « Par la mort Dieu, monsieur le drôle !» dit le comte en lui rendant la vue par un mouvement brusque qui fit tomber au cou de l'inconnu le bandeau qu'il avait sur les yeux. « Ne t'avise pas de regarder autre chose que la misérable sur laquelle tu vas exercer ta science. Sinon, je te jette dans la rivière qui coule sous ses fenêtres, après t'avoir mis un collier de diamants qui pèseront plus de 100 livres. » Et il tira légèrement sur la poitrine de son auditeur stupéfait la cravate qui avait servi de bandeau. « Examine d'abord si ce n'est qu'une fausse couche. Dans ce cas, ta vie me répondrait de la sienne. Mais si l'enfant est vivant, tu me la porteras. » Après cette allocution, le comte saisit par le milieu du corps le pauvre opérateur, l'enleva comme une plume de la place où il était et le posa devant la comtesse. Le seigneur alla se placer au fond de l'embrasure de la croisée, où il joua du tambour avec ses doigts sur le vitrage, en portant alternativement ses yeux sur son serviteur, sur le lit et sur l'océan, comme s'il eût voulu promettre à l'enfant attendu la mère pour berceau. L'homme, que, par une violence inouïe, le comte et Bertrand venaient d'arracher au plus doux sommeil qui eût jamais clos paupières humaines, pour l'attacher en croupe sur un cheval, qu'il put croire poursuivi par l'enfer, était un personnage dont la physionomie peut servir à caractériser celle de cette époque, et dont l'influence se fit d'ailleurs sentir dans la maison d'Hérouville. Jamais en aucun temps les nobles ne furent moins instruits en sciences naturelles, et jamais l'astrologie judiciaire ne fut plus en honneur, car jamais on ne désira plus vivement connaître l'avenir. Cette ignorance et cette curiosité générale avaient amené la plus grande confusion dans les connaissances humaines. Tout y était pratique personnelle, car les nomenclatures de la théorie manquaient encore. L'imprimerie exigeait de grands frais, les communications scientifiques avaient peu de rapidité, l'Église persécutait encore les sciences, tout d'examen qui se basait sur l'analyse des phénomènes naturels. La persécution engendrait le mystère. Donc, pour le peuple comme pour les grands, physiciens et alchimistes, mathématiciens et astronomes, astrologues et nécromanciens, étaient 6 attributs qui se confondaient en la personne du médecin. Dans ce temps, le médecin supérieur était soupçonné de cultiver la magie. Tout en guérissant ses malades, il devait tirer des horoscopes. Les princes protégeaient d'ailleurs ces génies auxquels se révélait l'avenir. Ils les logeaient chez eux et les pensionnaient. Le fameux Corneille Agrippa venu en France pour être le médecin de Henri II, ne voulut pas, comme le faisait Nostradamus, pronostiquer l'avenir, et il fut congédié par Catherine de Médicis, qui le remplaça par Comme Ruggieri. Les hommes supérieurs à leur temps et qui travaillaient aux sciences étaient donc difficilement appréciés. Tous inspiraient la terreur qu'on avait pour les sciences occultes et leurs résultats. Sans être précisément un de ces fameux mathématiciens, l'homme enlevé par le comte jouissait en Normandie de la réputation équivoque attachée à un médecin chargé d'œuvres ténébreuses. Cet homme était l'espèce de sorcier que les paysans nomment encore, dans plusieurs endroits de la France, un rebouteur. Ce nom appartenait à quelque génie brut qui, sans étude apparente, mais par des connaissances héréditaires et souvent par l'effet d'une longue pratique dont les observations s'accumulaient dans une famille, reboutait, c'est-à-dire remettait les jambes et les bras cassés, guérissait bêtes et gens de certaines maladies et possédait des secrets prétendus merveilleux pour le traitement des cas graves. Non seulement Maître Antoine Beauvouloir, tel était le nom du rebouteur, avait eu pour aïeul et pour père deux fameux praticiens desquels il tenait d'importantes traditions, mais encore il était instruit en médecine. Il s'occupait de sciences naturelles. Les gens de la campagne voyaient son cabinet plein de livres et de choses étranges qui donnaient à ses succès une teinte de magie. Sans passer précisément pour sorcier, Antoine Beauvouloir imprimait à 30 lieues à la ronde un respect voisin de la terreur aux gens du peuple. Et, chose plus dangereuse pour lui-même, il avait à sa disposition des secrets de vie et de mort qui concernaient les familles nobles du pays. Comme son grand-père et son père, il était célèbre par son habileté dans les accouchements, avortements et fausses couches. Or, dans ces temps de désordre, les fautes furent assez fréquentes et les passions assez mauvaises pour que la haute noblesse se vit obligée d'initier souvent Maître Antoine Beauvouloir à des secrets honteux ou terribles. Nécessaire à sa sécurité, sa discrétion était à toute épreuve. Aussi sa clientèle le payait-elle généreusement, en sorte que sa fortune héréditaire s'augmentait beaucoup. Toujours en route, tantôt surpris comme il venait de l'être par le comte, tantôt obligé de passer plusieurs jours chez quelques grandes dames, il ne s'était pas encore marié. D'ailleurs, sa renommée avait empêché plusieurs filles de l'épouser. Incapable de chercher des consolations dans les hasards de son métier qui lui conférait tant de pouvoir sur les faiblesses féminines, le pauvre rebouteur se sentait fait pour les joies de la famille et ne pouvait se les donner. Ce bonhomme cachait un excellent cœur, sous les apparences trompeuses d'un caractère gai, en harmonie avec sa figure joufflue, avec ses formes rondes, avec la vivacité de son petit corps gras et la franchise de son parler. Il désirait donc se marier, pour avoir une fille qui transporta ses biens à quelque pauvre gentilhomme, car il n'aimait pas son état de rebouteur, et voulait faire sortir sa famille de la situation où la mettaient les préjugés du temps. Son caractère s'était d'ailleurs assez bien accommodé de la joie et des repas qui couronnaient ses principales opérations. L'habitude d'être partout l'homme le plus important avait ajouté à sa gaieté constitutive une dose de vanité grave. Ses impertinences étaient presque toujours bien reçues dans les moments de crise, où il se plaisait à opérer avec une certaine lenteur magistrale. De plus, il était curieux comme un rossignol, gourmand comme un lévrier et bavard comme le sont les diplomates qui parlent sans jamais rien trahir de leurs secrets. À ces défauts près, développés en lui par les aventures multipliées où le jetait sa profession, Antoine Beauvouloir passait pour être le moins mauvais homme de la Normandie. Quoiqu'il appartint au petit nombre d'esprits supérieurs à leur temps, un bon sens de campagnard normand lui avait conseillé de tenir cachées ses idées acquises et les vérités qu'il découvrait.